Bonjour à tous et bienvenue donc sur Les Nouveaux Chemins. Hey, you know what? Diffusés tous les jours, du lundi au vendredi, Les Nouveaux Chemins sont réalisés cette semaine par François Connac avec Emmanuel Morse-Duncan à la technique et préparés par Geneviève Méric, Mathilde Unger, Géraldine Mosna-Savoie, Julien Tricard et Adèle Van Rett. Adèle qui recevra tout à l'heure le philosophe Jocelyn Benoît à 10h50 dans le journal des Nouveaux Chemins. Suite et milieu pour nous ce mercredi d'une semaine sur la guerre dans les nouveaux chemins de la connaissance, suite et prétexte en vérité à nous plonger pour la millième fois à l'antenne dans la recherche du temps perdu, ou plus précisément cette fois-ci dans le temps retrouvé, le dernier volume de la recherche que la guerre de 14-18 traverse et découpe en chacun de ses centres. Il faisait une nuit transparente et sans un souffle. J'imaginais que la Seine, coulant entre ces ponts circulaires, faits de leur plateau et de son reflet, devait ressembler au Bosphore. Et symbole soit de cette invasion que prédisait le défaitisme de M. de Charlus, soit de la coopération de nos frères musulmans avec les armées de la France, la lune étroite et recourbée comme un sequin semblait mettre le ciel parisien sous le signe oriental du croissant. Bonjour Philippe Chardin.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance sur France Culture. Vous êtes écrivain, vous êtes professeur de littérature comparée à l'université de Tours et l'on vous doit entre autres un petit livre au titre ravissant, Proust ou le bonheur du petit personnage qui compare, c'est chez Honoré Champion. La guerre, selon le narrateur de La recherche du temps perdu, pourrait être racontée comme un roman. C'est une leçon qu'il retient des conversations qu'il a avec le marquis de Saint-Loup. Et on pourrait se dire en même temps qu'il y a une forme d'obscénité à vouloir faire de la guerre un roman, c'est au fond une démarche de Planqué, celui qui n'est pas au front. Par quel talent, par quelle bizarrerie, le narrateur en vient-il à fictionnaliser la guerre comme il le fait tout au long du temps retrouvé, alors qu'elle est, malgré tout, ce qu'il y a de plus tangible et qu'elle le touche directement, non pas dans sa chair, mais dans la chair de son ami, le marquis de Saint-Loup, qui mourra au front, Philippe Chardin.
C'est la richesse et le paradoxe que Proust ne modifie pas les grands leitmotifs de son univers quand il parle de la guerre. Et qu'en même temps, il parvient à donner un sentiment extrêmement fort de la réalité terrible de la guerre. Il faut rappeler, par exemple, que trois des personnes qui lui ont été les plus proches étaient au front. Son frère, Robert, qui opérait, qui était médecin ambulancier.
On parle de Proust ici. Hein
oui, de Proust lui-même. Oui, oui, oui. Le Reynaldo Hahn, qui l'a connu, qui a été son grand ami de jeunesse, par qui il avait des informations sur le front. Et puis, les principaux modèles de Saint-Loup, Bertrand de Fénelon et Robert Dumière, qui sont morts à la guerre. Donc, c'était une connaissance extrêmement directe. Et en même temps, il y a cette manière de fictionaliser la guerre, de la comparer au processus des amours, par exemple, le bluff à la rupture conduisant à la rupture comme le bluff à la guerre conduit à la guerre. Il y a ces images dans le texte que vous avez cité, tout à fait insolites, d'un Paris historisé qui ressemble au directoire, un Paris exotique, un Paris oriental, Paris désert qui ressemble à la campagne de Combray. Donc tout ça, c'est la magie de la métaphore proustienne. Et on a donc, comme dans le roman réaliste du 19e siècle, la réalité la plus tangible, et puis en même temps les grandes lois de l'univers proustien.
Et dans le même temps, venons-en, avant d'entrer dans la lettre du texte, de ce texte vivant, magnifique, sublime, du dernier volume de La recherche du temps perdu, donc du temps retrouvé, quelques indications biographiques ou bibliographiques, Philippe Chardin. Il est d'usage de penser, quand on connaît à peine La recherche du temps perdu, mais qu'on la connaît un tout petit peu quand même, que du côté de chez Swann, c'est-à-dire le premier volume de La recherche du temps perdu, a été écrit en même temps que Le temps retrouvé, et que Proust a eu le génie d'écrire le début et la fin en même temps, puisque effectivement, quand on lit À la recherche du temps perdu, l'épilogue de La recherche, dictant au narrateur sa vocation d'artiste, justifie le début, c'est-à-dire justifie qu'il entreprenne la démarche folle prométhéenne d'écrire À la recherche du temps perdu, de sorte qu'il faudrait le lire deux fois, à la fois comme la narration qui est faite d'un homme qui découvre progressivement qu'il est artiste, et puis le récit que fait l'artiste de la découverte de sa propre vocation. Et donc à cet égard, on croit savoir que du côté de chez Swann a été écrit en même temps que Le temps retrouvé, que le premier volume a été écrit en même temps que le septième. Et pourtant, il y a l'épisode de la guerre. Or, l'épisode de la guerre, il n'a pas pu l'écrire quand il écrivait du côté de chez Swann, Philippe Chardin.
Non, justement. Alors, ce qui est vrai, c'est que les deux parties prévues pour le final, cet éblouissant dialogue de l'art et de la mort, qui s'appelait l'adoration perpétuelle et le bal de tête, étaient largement conçus avant la guerre. Seulement, et c'est une image de Saint-Loup, de même qu'un général ne peut pas maîtriser complètement le processus des opérations, un romancier ne maîtrise pas son œuvre en cours. Et la guerre est venue se greffer, comme d'ailleurs le roman d'Albertine, ce sont les deux additions principales. Le roman d'Albertine qui
couvre trois volumes de La recherche, hein, quand même, hein, le roman d'Albertine.
Qui couvre trois volumes.
L'amour tragique.
Qui était une passion funeste racinienne. Et là, il y avait pour Proust un grand événement historique, comparable à ceux qu'évoquaient des romans du XIXe siècle qu'il admirait. Par exemple, Guerre et paix de Tolstoï, La chartreuse de Parme de Stendhal, L'éducation sentimentale de Flaubert. Même s'il dit du mal de la politique et de l'histoire, il se rendait certainement compte que ça introduisait une dimension particulière. Et ce qui est étonnant, parce qu'on a souvent l'image de Proust comme d'un écrivain tourné vers le souvenir, vers le passé, c'est qu'il écrit pratiquement au présent. Le temps retrouvé...
Dans le temps... Rappelons que Proust est mort en 22.
En 22. Et Le temps retrouvé n'a été publié que de manière posthume, en 27. D'ailleurs, ça a probablement moins fait scandale, bien moins fait scandale que ça l'aurait fait tout de suite après la guerre. Et à plus forte raison si ça avait été publié pendant la guerre, comme au fond Le feu de Barbus et différents textes de témoins sur la guerre.
Tiens, on va entendre tout de suite d'ailleurs, lu par notre ami Georges Clès, notre lecteur Georges Clès, un des textes du temps retrouvé dans lequel Proust raille les modes vestimentaires de l'époque, un des textes qui permettent de comprendre en quoi un tel texte, si il avait paru en 1919 ou en 1920, aurait effectivement fait scandale dans le contexte de l'immédiate après-guerre. Écoutez la façon dont Proust décrit les tenues de guerre, comme on dit, des femmes du faubourg Saint-Germain, c'est irrésistible.
Un des premiers soirs, dès mon nouveau retour à Paris en 1916, ayant envie d'entendre parler de la seule chose qui m'intéressait alors, la guerre, je sortis après le dîner pour aller voir Madame Verdurin, car elle était, avec Madame Bontemps, une des reines de ce Paris de la guerre qui faisait penser au directoire. Comme par l'ensemencement d'une petite quantité de levure, en apparence de génération spontanée, des jeunes femmes allaient tout le jour, coiffées de hauts turbans cylindriques, comme aurait pu l'être une contemporaine de Madame Tallien. Par civisme, ayant des tuniques égyptiennes droites, sombres, très guères, sur des jupes très courtes, elles chaussaient des lanières rappelant le cothurne selon Talma ou de hautes guêtres rappelant celles de nos chers combattants. C'est, disait-elle, parce qu'elle n'oubliait pas qu'elle devait réjouir les yeux de ses combattants qu'elle se parait encore non seulement de toilettes floues, mais encore de bijoux évoquant les armées par leurs thèmes décoratifs. Si même leur matière ne venait pas des armées, n'avait pas été travaillée aux armées. Au lieu d'ornements égyptiens rappelant la campagne d'Égypte, c'était des bagues ou des bracelets faits avec des fragments d'obus ou des ceintures de 75, des allumes-cigarettes composées de pièces de deux sous anglaises, auxquelles un militaire était arrivé à donner dans sa cagna une patine si belle que le profil de la reine Victoria y avait l'air tracé par Pisanello. C'est encore parce qu'elles y pensaient sans cesse, disait-elle, qu'elles portaient à peine le deuil quand l'un des leurs tombait, sous le prétexte qu'il était mêlé de fierté, ce qui permettait un bonnet de crêpe anglais blanc du plus gracieux effet et autorisant tous les espoirs, dans l'invincible certitude du triomphe définitif, et permettait ainsi de remplacer le cachemire d'autrefois par le satin et la mousseline de soie, et même de garder ses perles, tout en observant le tact et la correction qu'il est inutile de rappeler à des Françaises.
Philippe Chardin, les grandes dames du Faubourg Saint-Germain sont ridicules. Elles sont ridicules et en même temps parce qu'elles sont frivoles et puis parce qu'elles se servent de leur tenue pour signaler leur patriotisme, c'est la façon qu'elles ont trouvé d'aller à l'usine. Néanmoins, elles sont ridicules et elles sont éternelles au sens où l'objet de l'éternité dans la recherche du temps perdu, c'est aussi précisément la frivolité du temps, la frivolité des mœurs. Un peu plus loin dans le temps retrouvé, le baron de Charlus lui-même espère presque que Paris, tel Pompéi, sera bientôt recouvert par la lave de quelques Vésuves allemands qui surprendraient les femmes à leur toilette en éternisant leurs gestes et éterniseraient leurs gestes en les interrompant. De sorte qu'il y a peut-être deux dimensions à ce texte, une critique acerbe, sociologique, du ridicule ou de la frivolité de l'époque, mais en même temps, l'art de transformer ce qui est frivole ou d'éterniser ce qui est frivole, tout simplement.
Proust s'intéressait à la mode, on ne le sait pas toujours. On le place du côté de l'éternel, du métaphysique, mais il s'intéressait aussi, comme Baudelaire, à l'éphémère, au provisoire. Et on se souvient des superbes robes d'Albertine, de Fortuny ou de la duchesse de Guermantes. Mais là, évidemment, c'est une satire très cruelle, très du mauvais goût de la guerre. Frivolité est un mot proustien, mais là, c'est exprimé de façon négative. Et cette hypocrisie, cette récupération mercantile, il y a des pastiches du discours des couturiers aussi dans le temps retrouvé. Le dernier pastiche n'est pas le pastiche du prétendu journal du pseudo-journal des Goncourt. En fait, c'est un pastiche de ce discours convenu. Il faut que les élégances restent décentes. Il faut que ça corresponde la dureté des temps. Et en fait, les stratégies individuelles d'arrivisme mondain, d'orgueil, ne sont absolument pas oubliées.
Surtout l'abîme qui sépare la mondanité du drame de la guerre et la façon qu'a la mondanité tout simplement d'incorporer le drame de la guerre dans le registre des élégances.
Bien sûr, le temps retrouvé se passe à Paris, mais on rappelle qu'à une heure d'automobile, les Allemands sont immobilisés par une sanglante barrière toujours renouvelée. Le sens de la synthèse, de la formule synthétique de Proust, avec peut-être une pointe de misogynie qui est d'époque, c'est-à-dire que les femmes étaient celles qui restaient à l'arrière, qui ne combattaient pas, qui étaient relativement à l'abri. Et cette pointe de misogynie, on la retrouverait dans Le voyage au bout de la nuit de Céline, qui est de la même époque. Quand Céline parle de l'infirmière militariste Lola, qui en fait est beaucoup plus angoissée par les quelques kilos qu'elle a pris, parce qu'elle est une familière des banquets patriotiques, et donc ça lui a fait prendre un peu de surpoids, que par les millions de morts de la guerre mondiale. C'est une perspective comme les croissants de Madame Verdurin. Madame Verdurin attache beaucoup plus d'importance au plaisir que lui donnent ses croissants qu'à la catastrophe du Lusitania qu'elle est en train de lire, qui a fait plus d'un millier de victimes. Donc c'est la futilité, la frivolité, en même temps justement la continuité de ces personnages qu'on a connus avant-guerre. et qui entrent dans la guerre tels qu'en eux-mêmes, avec leur ridicule, avec leur caractère odieux, avec leur stratégie et avec leur guerre privée, hein, on peut dire, puisque Madame Verdurin, par exemple, est soucieuse avant tout de mener sa guerre contre Charlus, contre Brichot, c'est sa guerre privée parallèle à la Grande Guerre.
Arriva vers nous au pas de gymnastique, fourbu, dégingandé, un cavalier à pied, comme on disait alors. « Qu'est-ce que c'est ?» l'arrêta net le colonel. « Le maréchal des logis Barousse vient d'être tué, mon colonel, » qu'il dit tout d'un trait. « Et alors ? Il a été tué en allant chercher le fourgon à pain sur la route des Étrapes, mon colonel. Et alors ? Il a été éclaté par un obus. Et alors, nom de Dieu ? Et voilà, mon colonel. C'est tout ? Oui, c'est tout, mon colonel. « Et le pain ?» demanda le colonel. Ce fut la fin de ce dialogue. Parce que je me souviens bien qu'il a eu juste le temps de dire « et le pain ?» et puis ce fut tout. Après ça, rien que du feu, et puis du bruit avec. Mais alors un de ces bruits, comme on ne croirait jamais qu'il en existe. Quant au colonel, il était mort. Je ne le vis plus tout d'abord. C'est qu'il avait été projeté sur le talus, allongé sur le flanc par l'explosion, et projeté jusque dans les bras du cavalier à pied, le messager fini lui aussi. Ils s'embrassaient tous les deux pour le moment et pour toujours. Mais le cavalier n'avait plus sa tête, rien qu'une ouverture au-dessous du cou, avec du sang dedans qui mijotait en glouglou comme de la confiture dans la marmite. Le colonel avait son ventre ouvert, il en faisait une sale grimace. Ça avait dû lui faire mal ce coup-là au moment où c'était arrivé. Hé, tant pis pour lui. Ça, c'est pas Proust, hein. Ça, c'est Céline. C'est le voyage au bout de la nuit, c'est la description de la guerre. On est au début du voyage au bout de la nuit. C'est l'antithèse de Proust ou l'antipode de Proust. À ceci près, peut-être, Philippe Chardin, puisque vous évoquez Céline, que Céline pointe le fait que le colonel et son ordonnance s'embrassent tous les deux pour le moment et pour toujours. Et on retrouve peut-être ici, pour le coup, une dimension proprement proustienne d'éternisation de l'éphémère, de sanctification, de sacralisation, de fixation d'un moment.
Je pense que la comparaison entre ces deux immenses écrivains que sont Proust et Céline, qui consacrent une partie de deux grands livres à la guerre de 14, est tout à fait intéressante, avec les mêmes effets d'humour terrible. L'horreur de la guerre est moins évoquée, puisque c'est la guerre à l'arrière dans Le Temps retrouvé, mais il y a quand même les lettres de Saint-Loup. Et un passage, effectivement, sur les camarades que Saint-Loup a vu déchiqueter à côté de lui, c'est plus là un ton satirique. C'est-à-dire que la différence peut-être avec Céline, c'est que Proust réserve sa satire à l'arrière, au bouc émissaire de l'arrière. Mais quand il s'agit de l'avant, on est plutôt dans un registre héroïque, dans la pitié, dans la terreur, et plus dans ce ton satirique qu'on a évoqué tout à l'heure.
Le pauvre petit Vaugoubert, le fils de l'ambassadeur, a été 7 fois blessé avant d'être tué. Et chaque fois qu'il revenait d'une expédition sans avoir écopé, il avait l'air de s'excuser et de dire que ce n'était pas sa faute. C'était un être charmant. Nous nous étions beaucoup liés. Les pauvres parents ont eu la permission de venir à l'enterrement, à condition de ne pas être en deuil et de ne rester que 5 minutes à cause du bombardement. Le pauvre père était dans un tel état que je t'assure que moi, Saint-Loup, qui ai fini par devenir tout à fait insensible, à force de prendre l'habitude de voir la tête du camarade qui est en train de me parler subitement labouré par une torpille ou même détaché du tronc, je ne pouvais pas me contenir en voyant l'effondrement du pauvre Vaugoubert qui n'était plus qu'une espèce de loque. Le général avait beau lui dire que c'était pour la France, que son fils s'était conduit en héros, cela ne faisait que redoubler les sanglots du pauvre homme qui ne pouvait pas se détacher du corps de son fils. Enfin, et c'est pour cela qu'il faut s'habituer à « passeront pas » tous ces gens-là, comme mon pauvre valet de chambre, comme Vaugoubert, ont empêché les Allemands de passer. Le Temps retrouvé est un grand roman aussi pour le marquis de Saint-Loup, dont je viens de lire ici une lettre qui raconte donc la mort du fils Vaugoubert, qui pourtant est l'ennemi personnel du narrateur d'ailleurs. Bon, c'est encore une autre histoire ça. Et le temps retrouvé est un, à tous égards, l'heure de bravoure du marquis de Saint-Loup. Philippe Chardin, il faut revenir sur ce personnage, le courage dont il a fait preuve et le drame, la tragédie de sa disparition.
Il y a un oxymore dans le temps retrouvé, l'écume de niaiserie et le rayonnement de gloire. Et l'écume de niaiserie, qu'on a évoqué déjà, ne doit pas faire oublier le rayonnement de gloire qui s'attache en particulier à ce personnage de Saint-Loup. Il y a sa mort chevaleresque, héroïque, sacrificielle. Ensuite, son enterrement dans l'église Saint-Hilaire de Combray, tendue de rouge, avec le G de la famille Guermantes, toute la rêverie médiévale sur Saint-Loup. Mais il y a aussi le retour du permissionnaire, qui est comparé à une évocation des morts. Il revient des rivages de la mort, et le narrateur est surpris qu'il ne prononce que des paroles ordinaires.
Quand Saint-Loup était entré dans ma chambre, je l'avais approché avec ce sentiment de timidité, cette impression de surnaturel que donnaient au fond tous les permissionnaires et qu'on éprouve quand on est introduit auprès d'une personne atteinte d'un mal mortel et qui cependant se lève, s'habille, se promène encore. Il semblait, il avait surtout semblé au début, car pour qui n'avait pas vécu comme moi loin de Paris, l'habitude était venue qui retranche aux choses que nous avons vues plusieurs fois, la racine d'impressions profondes et de pensées qui leur donnent leur sens réel. Il semblait presque qu'il y eût quelque chose de cruel dans ces permissions données aux combattants. À cet égard, Philippe Chardin, on est au cœur d'un processus proustien, d'un procédé proustien qui témoigne de ces deux écritures dont on parlait au début. Il parle du mal mortel. Il prend la métaphore d'une personne atteinte d'un mal mortel quand une personne est en permission. Est-ce que c'est une prescience du narrateur qui pressent que son ami va mourir? Ou est-ce que c'est un effet rétroactif de celui qui, comme quand il revoit Charlus, ou quand il raconte sa première rencontre avec Charlus, le décrit déjà selon une comédie qui est éclairée par la découverte beaucoup plus tardive de son homosexualité? Est-ce qu'au fond, le narrateur n'est pas ici, ne joue pas ici sur les deux tableaux, celui de la perception immédiate de Saint-Loup et celui du savoir qui est le sien, du savoir postérieur qui est le sien, de la mort de Saint-Loup?
Il y a beaucoup d'effets de ce type, à la fois métonymiques et métaphoriques, à propos de la maladie. Par exemple, le cancer dont mourra Swann, finalement, c'est sa passion stupide et funeste pour Odette. La guerre est souvent comparée à une maladie qui attaque sur différents front à la fois, qui est immaîtrisable. Mais puisque vous faites allusion quand même aussi à l'homosexualité de Saint-Loup, il ne faut pas...
Je pensais à celle de Charlus, mais vous avez raison de rappeler que Saint-Loup lui-même devient homosexuel.
Les deux, l'oncle et le neveu, qui sont rapprochés, par exemple, par leur même dépendance à l'égard de Morel. De Morel, qui est un bon violoniste, mais qui est une fripouille.
Et qui, lui, est un vrai déserteur, d'ailleurs.
Alors, c'est très curieux, le cycle de Morel. C'est très, très curieux et ça reflète toute l'ambiguïté de la recherche. Puisque Morel est d'abord planqué par Madame Verdurin. Il voudrait s'engager, mais Madame Verdurin ne veut pas que la guerre, qui est en somme pour elle une nouvelle ennuyeuse, ne fasse lâcher ses fidèles. Donc, elle intervient.
Il faut rappeler que Madame Verdurin tient un petit salon, clan qui est essentiel et qui a beaucoup plus d'importance, évidemment, comme toute chose près de nous, que la guerre elle-même.
Que la guerre. Alors ensuite, Morel, effectivement, déserte. Il est retrouvé, il croit que c'est une vengeance de M. de Charlus, mais en fait, c'est que Saint-Loup cherche désespérément à retrouver sa trace et il a mis son général sur sa piste. Le général apprend en même temps la mort de Saint-Loup et par égard pour Saint-Loup, il pardonne et Morel est simplement renvoyé au front. Et là, Morel se conduit héroïquement. Et après-guerre, ce qui est tout de même une notation un peu ironique, Morel est appelé à témoigner au cours d'un procès et il est à ce moment-là considéré, lui l'ancien déserteur, comme une des plus hautes autorités morales qu'on puisse trouver en France. Vous voyez la contradiction, l'ambiguïté, c'est un personnage très trouble, Morel, depuis le début, depuis sa rencontre sur un quai de gare, c'est un personnage qui est des deux côtés sexuellement et puis on peut dire aussi idéologiquement qu'il est vraiment des deux côtés.
Mais il est atroce, sa première apparition, c'est une demande qu'il fait au narrateur de lui présenter des gens du monde aristo, qui en plus seraient des poètes et qu'il pourrait mettre en musique. Parce que le seul talent de Morel, mais il est réel celui-là, c'est que c'est quand même un interprète de génie.
Mais oui, autant les compositeurs, les créateurs sont présentés sous un jour très favorable, parfois comme des martyrs, comme Vinteuil, autant Morel, qui pourtant a un très bon interprète, et n'est vraiment pas flatté dans la recherche. C'est un personnage vénal, arriviste, lâche, mais dont la beauté fascine.
Comment expliquer que cette petite frappe, est-ce tout simplement sa beauté? Peut-être, hein, Philippe Chardin, puisque vous l'évoquez, mais comment expliquer que cette petite frappe de rien du tout de Morel, qui n'a donc pour lui que sa beauté et son talent de violoniste, c'est déjà ça, suscite une telle passion de la part d'un homme si généreux, au fond, comme Monsieur de Charlus, de quelqu'un d'aussi généreux que le baron de Charlus, et également un tel amour de la part de quelqu'un qui découvre d'ailleurs à cette occasion sa propre homosexualité, c'est-à-dire son neveu, le marquis de Saint-Loup.
Ça, c'est une loi proustienne en même temps. C'est-à-dire que les êtres d'élite tombent sous la coupe
des canailles.
Des canailles. Et c'est démonstratif, c'est didactique. Il s'agit de montrer que l'amour est une illusion, est une imposture. Mais en même temps, il y a cette fascination pour la beauté de Morel. Presque en termes d'éclat d'obus, justement. Il y a des jeunes filles et des hommes qui gardent un éclat du visage de Morel indéfiniment incrusté en eux. Ça, c'est une belle image, hein, une image, c'est une sculpture marmoréenne en même temps, Morel. Et effectivement, c'est la répétition des séries, l'oncle comme le neveu, qui sont impuissants, qui sont prêts à n'importe quoi pour cette petite frappe.
Alors, il y a une différence entre l'oncle et le neveu, c'est que le neveu Saint-Loup, c'est une sculpture qui a toujours l'impression, qui donne toujours l'air de courir après son monocle, qui est donc à la fois échevelé et digne, qui, quand il tend la main, la façon d'Eguermante, la tend si loin qu'on a l'impression qu'il regarde sa propre main, tant le bras est long, à tous égards d'ailleurs. Donc le neveu, le marquis de Saint-Loup, le fils de la sœur du duc de Guermantes, c'est la sculpture. Et l'oncle, le baron de Charlus, c'est le sculpteur. C'est le vieux monsieur qui cherche sa part de bonheur auprès des hommes qui aiment les vieux monsieur. C'est le sculpteur et c'est celui qui, on l'évoquait tout à l'heure, s'attarde sur ce qu'un cataclysme, ce que la fin du monde aurait pour effet de provoquer à Paris. Par exemple, il dit ceci, « La frivolité d'une époque, quand 10 siècles ont passé sur elle, est digne de la plus grave érudition, surtout si elle a été conservée intacte par une éruption volcanique ou des matières analogues à la lave projetée par bombardement. » On trouve dans La recherche du temps perdu, Philippe Chardin, un éloge de la littérature, un éloge de la musique et un éloge de la peinture. Bon, on a Les Mille et Une Nuits, Vinteuil et Elstir. Je n'ai pas le souvenir qu'il y ait un équivalent en matière de sculpture. Et pourtant, la sculpture est omniprésente. Les individus sont statufiés en permanence par l'écrivain lui-même. Mais il n'y a pas de sculpteur officiel, il me semble, hein, dans La recherche du temps perdu, qui occuperait une place comparable à celle du musicien Vinteuil, du peintre Elstir ou du, tout simplement de Scheherazade.
Oui, il y a une figure de sculpteur skime et qui est secondaire et qui n'est pas très valorisé.
C'est un pitre, ce qui...
Seulement, il y a effectivement les comparaisons avec la sculpture, y compris avec Maillol, pour ce qui est précisément des visages décomposés. Et une hypothèse que je ferai, c'est qu'il y a eu condensation, finalement, entre des images de sculpture, les ravages sur les visages du temps. C'était le bal de tête initial.
C'est le bal de tête. C'est la matinée chez la princesse de Guermantes, c'est la fin du temps retrouvé. Oui.
Et puis peut-être les gueules cassées que Proust commençait à voir dans les rues et la destruction des visages, donc la manière dont la sculpture moderne décompose le visage. Il y a un article intéressant de Nathalie Mauriac sur ce sujet. Effectivement, les ravages de la guerre et puis tout simplement les ravages du temps, ce bal masqué, la métamorphose et les êtres qui sont méconnaissables.
Mais ça, c'est passionnant ce que vous dites parce que ça permet de comprendre en quoi l'immixtion de la Grande Guerre dans la narration du temps retrouvé Et donc le fait que le narrateur ait eu besoin et dû intégrer la Grande Guerre au temps retrouvé dont il avait déjà écrit une partie avant de l'intégrer, notamment la fin, n'est pas contradictoire avec le propos lui-même du temps retrouvé, puisque le bal des têtes dont vous parlez, qui clôt la recherche du temps perdu, c'est le moment où il voit tout le monde, il a l'impression que les gens se sont fait une tête, tout simplement parce qu'ils ont vieilli et que leurs cheveux sont devenus blancs, ou qu'ils ont grossi ou maigri, enfin qu'ils ont changé, et que les ravages du temps, les ravages et les reconstitutions du temps, cette découverte qu'il fait n'est pas contradictoire avec les ravages plus immédiats, plus violents et donc plus perceptibles immédiatement que produit la guerre sur les gueules cassées. Au fond, le bal des têtes, ce sont des gueules cassées à leur manière.
Exactement. Et c'est plus seulement...
Mais des gueules cassées par le temps.
C'est plus seulement des destructions individuelles, c'est la mort d'un monde. Ce sont les derniers jours de l'humanité, pour reprendre le titre d'une œuvre de Karl Kraus consacrée à l'avant-guerre de 14 et la guerre de 14. Ce sont les derniers jours de Pompéi aussi. C'est une image effectivement qu'emploie Charlus et que reprend le narrateur en lien avec l'homosexualité. Parce qu'il faut tout de même souligner, et c'est déjà un peu sulfureux, cette association, que dans le temps retrouvé, on est en fait encore largement à la fin du cycle Sodome et Gomorre. Et quand on pense au tabou sur l'homosexualité dans l'armée, par exemple, qui n'a été levé que récemment dans l'armée américaine, cette association constante, même à propos de Saint-Loup, c'est-à-dire qu'il y a quand même la perte de sa croix de guerre dans la maison de Jupien, il y a quelques soupçons sur ses motivations. Au fond, il aime bien coucher avec ses hommes à la belle étoile, être adoré de ses hommes. C'est pas complètement pur. Il y a cette dimension héroïque dont on a parlé, mais il y a cet érotisme de la guerre, et ça, c'est un des éléments sûrement les plus sulfureux.
Et le baron de Charlus lui-même dit ceci: « Si je pense que nous pouvons avoir demain le sort des villes du Vésuve, celles-ci sentaient qu'elles étaient menacées du sort des villes maudites de la Bible. On a retrouvé sur les murs d'une des maisons de Pompéi cette inscription révélatrice, et c'est Charlus qui le dit, « Sodoma Gomorra ». Je ne sais si ce fut le nom de Sodome et les idées qu'il éveilla en lui, soit celles du bombardement, qui firent que M. de Charlus leva un instant les yeux au ciel, mais il les ramena bientôt sur la terre. « J'admire tous les héros de cette guerre, dit-il. Tenez, mon cher, les soldats anglais que j'ai un peu légèrement considérés au début de la guerre comme de simples joueurs de football, assez présomptueux pour se mesurer avec des professionnels, eh bien, rien qu'esthétiquement, ce sont des athlètes de la Grèce, vous entendez bien, de la Grèce, mon cher. Ce sont les jeunes gens de Platon, ou plutôt des Spartiates. » C'est magnifique.
Et le défaitisme de Charlus est rapporté à différents éléments. Il y a son atavisme germanophile, puisque sa mère est une...
Il dit « nous les Allemands
hein. ». Nous les Allemands, effectivement, comme dans ces grandes familles aristocratiques, il y a l'élégance de Charlus. Il ne peut pas supporter le bourrage de crâne, etc. Mais alors, il y a aussi toute une mise en rapport... retorse avec son sadomasochisme. Parce qu'il admire tellement ces beaux soldats anglais qui lui apparaissent comme des bourreaux délicieux. Il trouverait trop cruel, trop pervers de s'identifier à eux pour écraser la laideur germanique. Alors c'est évidemment comique, c'est retors, etc. Donc le défaitisme de Charlus est associé à des raisonnements tout à fait tortueux. C'est parce qu'il admire trop les Anglais qu'il ne peut pas prendre leur parti.
Il trouvait les Allemands fort laids, peut-être parce qu'ils étaient un peu trop près de son sang. Il était fou des Marocains, mais surtout des Anglo-Saxons, en qui il voyait comme des statues vivantes de Phidias. Or chez lui, le plaisir, dit-il, n'allait pas sans une certaine idée cruelle dont je ne savais pas encore à ce moment-là toute la force. L'homme qu'il aimait lui apparaissait comme un délicieux bourreau. Il eût cru, en prenant parti contre les Allemands, agir comme il n'agissait que dans les heures de volupté, c'est-à-dire en sens contraire de sa nature pitoyable, c'est-à-dire enflammé pour le mal séduisant et écrasant la vertueuse laideur. Il y a chez Charlus une dimension stupéfiante, c'est qu'il est également celui que son amour antisocial ou son goût pour la canaille rend sensible précisément à la laideur autant qu'à la beauté.
Charlus est un personnage provocateur. Et il fait scandale par ses propos sur la guerre. Il fait scandale dans les rues parce qu'il parle fort en disant des choses qu'on n'avait absolument pas le droit de dire pendant la guerre de 14. Et il fait même scandale auprès de ceux qui le flagellent consciencieusement puisqu'il est arrivé au dernier degré du sadomasochisme et il se fait consciencieusement fouetté de façon épouvantable dans la maison de passe. Et les soldats qui le fouettent sont effarés, scandalisés, parce qu'il leur tient des propos défaitistes. C'est vraiment un personnage qui se moque du candidat-on. C'est un superbe personnage qui est frivole. Proust aime bien le mot frivole qu'on évoquait tout à l'heure, mais qui représente aussi une magnifique réincarnation de grandeur et décadence. C'est le roi Lear, c'est toute une série de personnages mythiques qui sont associés à Charlus.
Et alors effectivement, Charlus, on le voit dans Le Temps retrouvé, enchaîné au rocher de la matière, hein, comme Prométhée, fouetté jusqu'au sang par des jeunes hommes à qui il demande de contrefaire la méchanceté dont il sait par ailleurs, d'ailleurs, qu'elle n'est pas du tout la leur. Hein. Proust lui-même, enfin le narrateur lui-même, décrivant les fouetteurs, les décrit comme des futurs admirables soldats, comme des jeunes gens très sympathiques, etc., etc. Mais qui se font payer par Charlus et qui reçoivent de Jupien, qui tient la maison de passe, l'instruction formelle d'avoir l'air méchant au moment de lui adresser le fouet. Vous avez parlé de Charlus, restons un instant sur Charlus. Charlus a toutes les vertus, mais il n'est pas patriote. Et je me demande si ça n'est pas là, d'ailleurs, un des éléments de sa grandeur. On va entendre tout de suite un texte qui revient sur le patriotisme ou le patriotisme du narrateur, parce que le narrateur, lui, est patriote, et le fait que Charlus lui montre à quel point son propre patriotisme est en lui-même peut-être dicté par le sang, par l'appartenance, plus que par la raison.
Monsieur de Charlus allait plus loin que de ne pas souhaiter passionnément la victoire de la France. Il souhaitait, sans se l'avouer, sinon que l'Allemagne triomphât, du moins qu'elle ne fût pas écrasée comme tout le monde le souhaitait. La cause en était que dans ces querelles, les grands ensembles d'individus, appelés nations, se comportent eux-mêmes dans une certaine mesure comme des individus. La logique qui les conduit est toute intérieure et perpétuellement refondue par la passion, comme celle de gens affrontés dans une querelle amoureuse ou domestique, comme la querelle d'un fils avec son père, d'une cuisinière avec sa patronne, d'une femme avec son mari. Celle qui a tort croit cependant avoir raison, comme c'était le cas pour l'Allemagne, et celle qui a raison donne parfois de son bon droit des arguments qui ne lui paraissent irréfutables que parce qu'ils répondent à sa passion. Dans ces querelles d'individus, pour être convaincu du bon droit de n'importe laquelle des parties, le plus sûr est d'être cette partie-là. Un spectateur ne l'approuvera jamais aussi complètement. Or, dans les nations, l'individu, s'il fait vraiment partie de la nation, n'est qu'une cellule de l'individu-nation. Le bourrage de crâne est un mot vide de sens. Eût-on dit aux Français qu'ils allaient être battus, qu'aucun Français ne se fût moins désespéré que si on lui avait dit qu'il allait être tué par les Bertas. Le véritable bourrage de crâne, on se le fait à soi-même par l'espérance, qui est un genre de l'instinct de conservation d'une nation, si l'on est vraiment membre vivant de cette nation. Pour rester aveugle sur ce qu'a d'injuste la cause de l'individu Allemagne, pour reconnaître à tout instant ce qu'a de juste la cause de l'individu France, le plus sûr n'était pas pour un Allemand de n'avoir pas de jugement, pour un Français d'en avoir. Le plus sûr pour l'un ou pour l'autre, c'était d'avoir du patriotisme.
C'est un texte riche et intéressant idéologiquement. Effectivement, le narrateur n'en est pas. Le personnage qui dit « je » ne doit rien avoir de trop sulfureux. Il n'est pas homosexuel, il n'est pas défaitiste. Il est même supposé être d'un patriotisme aveugle, ce qui est quand même un peu en contradiction avec certaines des pensées qu'il a, selon lesquelles la germanophilie ou la francophilie, le patriotisme, sont des questions de croyance. Et qu'au fond, ça se discute, que c'est illusoire comme toute croyance. Donc ça ne procède pas quand même d'un patriotisme si aveugle.
Peut-être le narrateur est-il au fait, comme de la même manière que son amour pour Albertine est un esclavage dont il est conscient, peut-être le narrateur voit-il dans son patriotisme l'un des aveuglements contre lesquels il ne peut pas grand-chose.
Exactement, mais en même temps, il est d'une lucidité à certains égards. Il approuve tout à fait, on va le dire en allemand, puisque Madame Verdurin considère que Charlus est un boche. Il admire la Sprachkritik, la critique de la langue, des clichés, des lieux communs de Brichot ou de Norpois, à laquelle procède Charlus. Et un autre intérêt du texte qu'on vient d'écouter, c'est la continuité chez Proust entre l'individuel et le collectif. Réduire la guerre à une gigantesque querelle entre deux individus. Parler des amours, c'est pourtant la guerre relève plutôt de la haine, obéissant au même processus que la guerre. Constamment des continuités entre le microcosme et le macrocosme.
Ou plutôt l'intégration du macrocosme au microcosme. Il y a un exemple de ça. Alors, il y a la guerre Verdurin-Charlus. Et puis il y a la guerre maître d'hôtel Françoise. Ça c'est génial. D'abord c'est hilarant, c'est très drôle. Le maître d'hôtel torture Françoise. C'est celui qui tient de la Déclaration des droits de l'homme le droit de dire envergure pour envergure. Le maître d'hôtel donc fait la guerre à Françoise. Il dit ceci, le narrateur dit ceci. Ayant réduit la guerre mondiale comme tout le reste à celle qu'il menait sourdement contre Françoise, qu'il aimait du reste malgré cela comme on peut aimer la personne qu'on est content de faire rager tous les jours en la battant au domino. La victoire se réalisait à ses yeux sous les espèces de la première conversation où il aurait la souffrance d'entendre Françoise lui dire « Enfin, c'est fini et il va falloir qu'ils nous donnent plus que nous ne leur avons donné en 70 ». Alors, le maître d'hôtel, c'est génial. C'est celui qui, lisant les journaux, croit aux nouvelles. Il dit « On lit les journaux comme on aime, un bandeau sur les yeux, mais, dit le narrateur, on ne cherche pas à comprendre les faits. On écoute les douces paroles du rédacteur en chef comme on écoute les paroles de sa maîtresse. On est battu et content parce qu'on ne se croit pas battu. » Mais vainqueur.
Là, donc, le maître d'hôtel a deux côtés. D'une part, il croit en l'avance triomphale des armées françaises, même quand le front se rapproche dangereusement de Paris. Mais d'autre part, il feint le défaitisme. Lui, il n'est pas profondément défaitiste comme Charlus, mais c'est uniquement pour faire monter Françoise. Pour lui dire, par exemple, il lui dit que chaque jour, il y a des millions de morts, qu'on fusille des... Enfin, il y a eu des fusillés pour l'exemple en 14, mais enfin, que tous les jours, des gosses de 16 ans sont fusillés en masse, et puis que l'Allemagne va se redresser et que même si la France gagne la guerre, de toute façon ensuite il y aura une révolution qu'on va lui prendre son champ, etc. Donc cette guerre privée du maître d'hôtel contre Françoise, remarquez, Françoise n'est pas toujours aussi affectée qu'il le pense. Par exemple, quand il donne des statistiques, au fond ça lui est indifférent, Françoise, comme à Madame Verdurin. Ce qui la touche, c'est des gens qu'on connaît.
Des gens qu'elle connaît et des gens qui sont connus.
Qui sont connus et qu'elle connaît, comme le marquis de Saint-Loup.
Le marquis de Saint-Loup, oui. Dont la mort l'affecte parce qu'elle est dans les journaux.
Elle a une expression terrible, d'ailleurs, avec cette faute de français. Il était tout dévisagé. Il vaut mieux que sa mère ne l'ait pas vu. Il était tout dévisagé. C'est à la fois ridicule et bouleversant.
Elle ne dormait plus, ne mangeait plus, se faisait lire les communiqués auxquels elle ne comprenait rien. Par le maître d'hôtel qui n'y comprenait guère davantage et chez qui le désir de tourmenter Françoise était souvent dominé par une allégresse patriotique. Il disait avec un rire sympathique en parlant des Allemands « Ça doit chauffer. Notre vieux Joffre est en train de leur tirer des plans sur la comète ». Françoise ne comprenait pas trop de quelle comète il s'agissait, mais n'en sentait pas moins que cette phrase faisait partie des aimables et originales extravagances auxquelles une personne bien élevée doit répondre avec bonne humeur, par urbanité, en haussant gaiement les épaules d'un air de dire « Il est bien toujours le même ». Elle tempérait ses larmes d'un sourire. C'est extraordinaire comme il arrive, comme le narrateur arrive. Il consacre des dizaines de pages à cet affrontement, cet affrontement de titans entre le maître d'hôtel et Françoise, comme il arrive à montrer à quel point une guerre est également la guerre d'un microcosme, comme vous le disiez tout à l'heure, Philippe Jardin.
C'est une vision complètement originale de la guerre de 14. Et en même temps, c'est d'une lucidité psychosociologique sur la guerre. Il ne faut pas d'ailleurs exagérer l'originalité de Proust par rapport aux témoins, quand il dénonce le bourrage de crâne, les profiteurs de guerre, le snobisme à l'arrière. Il n'est pas si loin finalement de son grand concurrent au prix Goncourt de 1919, ce qui a d'ailleurs un peu choqué les anciens combattants, qu'on ait donné le prix aux jeunes filles en fleurs et pas un un roman de guerre à l'avant comme Les Croix de Bois de Dorgelès. Mais au fond, Proust a lu Les Croix de Bois et les aimait. Mais ce qu'il y a de typiquement proustien, c'est justement cette continuité, ces effets de miroir entre ce qui se passe dans l'esprit et ce qui se passe sur les champs de bataille. Et on comprend, et ça aide effectivement à comprendre le collectif, ce microcosme des haines, des vanités, des vices individuels.
Il attendait les mauvaises nouvelles comme des œufs de Pâques, espérant que cela irait assez mal pour épouvanter Françoise, pas assez pour qu'il pût matériellement en souffrir. On touche du doigt ici quelque chose d'essentiel, là encore, dans la recherche. C'est pas seulement le fait que les microcosmes rejouent la partie, la grande partie qui se joue à l'échelle mondiale ou à l'échelle de la guerre, de la Grande Guerre, mais également le fait que les douleurs qui nous sont abstraites nous sont parfaitement indifférentes. Vous avez cité tout à l'heure Madame Verdurin, un texte archi connu de la Verdurin qui lit le détail du naufrage de Lusitania, mais qui trempe son croissant dans son café au lait et qui trouve le croissant si bon qu'au fond, ce que son visage exprime, c'est l'expression d'une profonde satisfaction alors qu'elle se plaint des drames qu'elle est en train de lire. Pareil pour Françoise, pareil pour le maître d'hôtel. La façon dont les gens jouent à se faire peur, et même aussi la façon dont Charlus esthétise la guerre, est aussi une façon de considérer qu'au fond, la destruction du monde importe moins qu'une égratignure ou une éraflure, mais qui me serait faite à moi.
Là, on touche à quelque chose d'important. Proust n'aime pas la mauvaise abstraction. Et ça explique à la fois sa dénonciation satirique du bourrage de crâne et sa grande compassion pour les souffrances des soldats. Il y a une belle phrase dans sa correspondance. « Dès 14, je n'ai jamais compris qu'on fît de l'héroïsme pour le compte des autres. » Et ça, il ne le supporte pas. L'indifférence à la mort des autres, c'est pas seulement dans la guerre, c'est quand on apprend une mort, ça revient si souvent, le duc de Guermantes qui dit mais on exagère parce qu'il veut aller à ses plaisirs.
On lui apprend la mort de son cousin, il dit il est mort, mais non, on exagère.
Et ça revient plusieurs fois, ce même genre d'indifférence. Or là, c'est à une échelle gigantesque, l'indifférence de l'arrière, des mondains, aux souffrances des autres. Et là, Proust le dénonce vraiment avec beaucoup de force et beaucoup de beauté.
Et cette indifférence est l'occasion pour lui à la fois de l'esthétique, de la beauté, mais également, par exemple, de montrer la mauvaise foi des individus. Il y a un dialogue comme ça, on arrive rapidement, malheureusement, au terme de cette émission, mais il y a un dialogue comme ça entre les deux amis du narrateur, Bloch et Saint-Loup. Et Bloch fait la leçon à Saint-Loup, il lui fait la morale. Or, Bloch, c'est celui qui devient antimilitariste à la seconde où, contrairement à ce qu'il espérait, il se retrouve, malgré sa myopie, incorporable. Et c'est celui qui devient antimilitariste à ce moment-là. Et puis Bloch, c'est celui qui donne des leçons de patriotisme à Saint-Loup, qui dit « moi j'ai peur, je ne veux pas y retourner ». Or, c'est Saint-Loup qui mourra au front, c'est pas Bloch.
Bloch est comme toujours le mauvais double du narrateur. Effectivement, c'est le lieu commun patriotique et en fait la lâcheté et ça c'est dénoncé de façon très très virulente et très belle dans ce dialogue. Alors que Saint-Loup, au contraire, feint par originalité, par souci d'originalité aussi, de ne pas de vouloir être un planqué, alors qu'il est tout le contraire et qu'il va mourir de manière héroïque.
Mon départ de Paris se trouva retardé par une nouvelle qui, par le chagrin qu'elle me causa, me rendit pour quelque temps incapable de me mettre en route. J'appris en effet la mort de Robert de Saint-Loup, tué le surlendemain de son retour au front, en protégeant la retraite de ses hommes. Jamais homme n'avait eu moins que lui la haine d'un peuple. Pas de haine du germanisme non plus. Les derniers mots que j'avais entendus sortir de sa bouche il y avait 6 jours, c'étaient ceux qui commencent un Lied de Schumann et que sur mon escalier, il me fredonnait en allemand, si bien qu'à cause des voisins, je l'avais fait taire.
So schwindet all mein Leid und Weh. Doch wenn ich küsse deinen Mund, so deine Brust.
Je me rappelais son arrivée la première fois à Balbec, quand, en lainage blanchâtre, avec ses yeux verdâtres et bougeant comme la mer, il avait traversé le hall attenant à la grande salle à manger, dont les vitrages donnaient sur la mer. Merci Philippe Chardin, on pourrait rester quelques heures encore à parler avec vous du temps retrouvé. C'est malheureusement déjà la fin de cette conversation. Je renvoie nos auditeurs à notre site internet pour y trouver toutes les références bibliographiques de vos ouvrages, ainsi évidemment que des ouvrages de Proust. Enfin, l'émission, la conversation que nous venons d'avoir est dédiée aujourd'hui à Gilberte. Non pas Gilberte Swann ou Gilberte de Forcheville, mais une Gilberte beaucoup plus jeune, car elle n'a aujourd'hui que 96 ans et elle connaît la recherche du temps perdu sur le bout des doigts. 10h50 sur France Culture. Tout de suite, le journal des Nouveaux Chemins et Adèle Van Rett. Bonjour Adèle.
Bonjour Raphaël. À trop parler, on en oublie que le langage est rarement univoque. Et la nécessité de parler, de communiquer dans laquelle nous sommes quotidiennement, fait écran et nous détourne de la réflexion sur ce que le langage veut vraiment dire. Expliciter l'implicite, déplier le langage pour en cerner la nature et la fonction, ce sont des tâches aussi ardues que passionnantes, car toute réflexion sur le langage, sur le mot, sur le concept, loin d'être purement formelle, est toujours, en définitive, une réflexion sur le sujet qui réfléchit, à savoir nous-mêmes. Bonjour Jocelyn Benoît.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes philosophe et c'est vous qui dirigez la collection Passage aux éditions du Cerf, collection qui publie en ce moment deux volumes du philosophe américain Robert Brandom, philosophe américain contemporain qui enseigne aujourd'hui à l'université de Pittsburgh. Alors les deux ouvrages que l'on trouve en ce moment se nomment « Rendre explicite », volume 1 et volume 2, qui en tout représentent 1150 pages, c'est donc une somme énorme, dont le but et l'intention sont finalement assez bien rendus par le titre lui-même, « Rendre explicite » ou « Making it explicit » en anglais, puisqu'il s'agit de montrer que la signification d'un mot, d'un concept, ne réside pas dans un sens qui serait objectif ou abstrait ni univoque, mais au contraire, que la signification réside dans l'usage qui est fait de ce mot ou de ce concept. Alors, Jocelyn Benoît, j'ai essayé de présenter cette démarche sans employer les termes techniques qui vont de mise d'inférentialisme ou de sémantique représentationnaliste, des mots qui peuvent effrayer, mais bon, qui renvoient tout ça quelque chose de précis et de clair. Mais est-ce que vous pouvez rendre encore plus explicite le sens qui se cache derrière l'affirmation selon laquelle la signification d'un mot se trouve dans son usage ?
Il y a peut-être d'abord un mot à dire de l'immensité, effectivement, de cet ouvrage, puisque c'est assez exceptionnel, surtout dans le contexte de la philosophie anglophone actuelle, un ouvrage de telle dimension et qui effectivement est caractérisé par cette volonté d'explicitation intégrale jusqu'au bout. Comme vous l'avez très bien dit en introduction, rendre explicite l'implicite. Alors on n'en a jamais fini avec l'implicite, mais en même temps l'idée de Brandom, c'est qu'il n'y a pas d'implicite sur lequel une certaine prise explicitante ne puisse pas être exercée. Donc c'est aussi, à l'issue de cet ouvrage gigantesque, c'est aussi un programme qui nous reste à poursuivre, à accomplir. Alors l'idée effectivement de départ, c'est une idée qui vient de Wittgenstein, c'est cette idée qui est celle de la signification résidant dans l'usage. Mais alors chez Brandom, c'est vrai qu'elle prend un caractère un peu particulier. Bon, c'est une idée qui au fond est devenue assez banale dans la seconde moitié du XXe siècle, dans la tradition de la philosophie du langage. Mais chez Brandom, elle prend un tour tout à fait précis, puisqu'effectivement, Brandom soutient cette thèse, bon, que techniquement on appelle l'inférentialisme. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire une chose très très simple, ça veut dire que la signification de nos mots, et au-delà de nos mots, de nos pensées, réside dans leur valeur inférentielle, c'est-à-dire réside dans ce que nous pouvons en faire en termes de raisonnement, les conséquences que nous pouvons en tirer. Et là, l'analyse que propose Brandom est une analyse qui donc privilégie la dimension du raisonnement, et la privilégie au point qu'il semble inverser ce qui semblait être la démarche naturelle depuis deux siècles, la démarche qui consistait à partir des éléments, de ce qu'on appelle les représentations, et de se demander comment, à partir de ces éléments, on peut construire des jugements, et puis à partir des jugements, on peut raisonner, raisonner étant le cheminement d'un jugement à un autre. Ben Brandom, lui, procède à l'envers. Il nous dit ce qui est premier, c'est le raisonnement, et c'est par l'analyse du raisonnement qu'on va pouvoir comprendre, y compris ce qui serait jugement, ce qui serait représentation, qu'on va pouvoir, revenir vers les termes.
C'est-à-dire que la représentation, donc à savoir ce qu'est l'étape intermédiaire entre la chose extérieure et le sujet représentant, en tout cas c'est ainsi que Descartes par exemple situe la représentation, n'a pas la puissance explicative requise.
Elle n'a pas valeur de fondement. Brandom s'inscrit dans une tradition contemporaine qu'on peut qualifier d'anti-représentationnaliste, donc la tradition qui n'accorde pas à la représentation le rôle fondamental dans la vie de l'esprit. En revanche, par rapport à d'autres auteurs, son propos n'est pas d'éliminer la notion de représentation. Son propos est plutôt de la retrouver, en montrant en quoi la représentation est une dimension, en réalité, du raisonnement même. C'est depuis le raisonnement que la question de la représentation peut se trouver. Et au fond, le point culminant de l'ouvrage, c'est le moment où on retrouve quelque chose comme la référence à des objets. Mais l'idée étant que les objets, c'est fondamentalement quelque chose sur quoi on raisonne. Et c'est depuis la façon qu'on a de raisonner que peut se poser la question de l'identification, du découpage des objets. Donc, au lieu de partir de l'idée que d'abord, on aurait rapport avec des objets, et puis à partir de ça, on peut construire des opérations plus complexes, comme par exemple des raisonnements, la procédure proposée par Brandom est exactement inverse. Il y a une forme de déduction de ce qui se passe à ce qu'on avait considéré jusque-là comme le niveau de base. On part d'un niveau global qui est celui d'un être raisonnant dans le monde, pris dans certaines interactions avec d'autres agents pensants qui eux aussi raisonnent, et ça a une importance puisqu'il y a cette dimension sociale fondamentale du raisonnement pour lui, et à partir de ce donné premier, on va retrouver y compris la dimension représentationnelle.
Alors vous parlez de la dimension sociale, justement, en quoi est-ce que cette réflexion, ce que vous présentez du travail de Robert Brandom lui-même, quelles conséquences est-ce que cela a ? Est-ce que la fin en soi de ce travail est purement formelle, d'analyser comment la connaissance se produit, comment le langage s'exprime, ou est-ce que ce n'est qu'un moyen pour exprimer autre chose, quelque chose de peut-être plus concret ou moins formel ?
Alors, il y a une ambition qui est une ambition très globale de la philosophie de Brandom. La philosophie de Brandom n'est pas une simple philosophie de la connaissance théorique, c'est aussi d'abord une philosophie de l'action, et la question de l'action, la question du raisonnement pratique joue un rôle fondamental dans sa perspective qui a comme caractéristique d'être extrêmement systématique. C'est aussi assez exceptionnel dans le contexte de la philosophie anglophone d'aujourd'hui, cette ambition systématique de nouer ensemble les différentes parties de la philosophie et de présenter une sorte de réflexion intégrale sur la raison dans ses différentes dimensions pratiques et théoriques. Alors, ce qui est caractéristique de son approche de la raison, c'est que c'est une approche, en un sens, hyper concrète, puisque ce qui l'intéresse, c'est le raisonnement dans sa teneur même, le raisonnement dans sa dimension, pourrait-on dire, d'inférence matérielle. Il ne s'agit pas d'une simple théorie des cadres formels du raisonnement, il s'agit d'une théorie qui a trait à la façon dont les raisonnements sont le lieu même du sens, ce en quoi le sens s'articule. Et donc, l'insistance de Brandom est toujours sur le contenu de pensée, mais l'idée étant que le contenu de pensée est ce qui se détermine essentiellement dans le cheminement de la pensée. Le cheminement de la pensée tel qu'il s'effectue dans le raisonnement et dans la discussion, dans l'activité très simple qui consiste à donner et à demander des raisons. On passe son temps les uns les autres à se donner et se demander des raisons. Ben pour Brandom, c'est là le lieu de détermination et d'identification du sens.
Rendre explicite, c'est donc le titre de ces deux livres, un livre qu'on trouve en deux volumes, donc Rendre explicite 1 et Rendre explicite 2, Raisonnement, représentation et engagement discursif. Voilà, donc c'est Robert Brandom, le philosophe dont on vient de parler, on trouve ça dans la collection Passage aux éditions du CERF, dans une édition qui est établie sous la direction de Isabelle Thomas Fogiel. Merci beaucoup, Jocelyn Benoît, d'être venu en parler aujourd'hui.
Merci Adèle. On parle du libertinage.
Eh bien oui, savez-vous parler le libertin ? Le libertin, ou quand ce n'est plus le vin, mais le plaisir qui délie les langues, faisant jouer les mots contre eux-mêmes. Dans le langage libertin, homonyme et paronyme s'en donnent à cœur joie. L'équivoque est partout. Et il faut étendre à tout le XVIIIe siècle ce mot de Rivarol. Si on nous laisse faire, il n'y aura bientôt plus un mot innocent dans la langue. Alors que vous soyez un amoureux des mots ou un insatiable du plaisir, vous vous délecterez de ce dictionnaire libertin concocté par Patrick Lazowski, de la lettre A, qui, quand elle est répétée plusieurs fois de suite en un seul mot, n'est que crise et soupir, au Z, la lettre foudre qui marque la vitesse du désir, on découvre les charmes du papillon qui évoque l'infidélité, le papillotage qui est la quintessence de l'aimable et du joli, l'effervescence d'un monde qui frise les heures en caprices. Cabriolet, bardache, manchette ou narration, il est difficile de parler de ce dictionnaire sans avoir peur de mettre un mot à la place d'un autre, mais je prends le risque de dire que c'est un enchantement dans lequel chaque mot intéresse à sa faveur, où l'obscénité est toujours recouverte d'une gaze, celle de la poésie. Parfois pudique, parfois coquine et toujours délicieuse. Lisez-le sans crainte et sans doute, c'est du très bon travail. C'est donc le dictionnaire libertin et on trouve ça chez Gallimard.
Oui, et vous donnez envie de nous y plonger. De la guerre, donc, vue depuis Paris à l'art libertin de rendre équivoque, voire explicite, ce qui ne l'est pas encore, c'était le défi du jour. L'émission du jour est à retrouver sur Internet, à la page des Nouveaux Chemins de la Connaissance, où vous pourrez télécharger l'émission du jour, les émissions de la semaine plus exactement, écouter également toutes les émissions qui la précèdent. Vous pourrez enfin fouiller une bibliographie qui mêle l'œuvre de Proust aux ouvrages que lui consacre Philippe Chardin. On se retrouve aussi demain pour évoquer la question de la guerre civile en compagnie de Ninon Granger.